Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Le billet politique, Frédéric Seize, les journaux La Voix du Nord et Le Télégramme ont refusé une interview collective avec Emmanuel Macron, au motif notamment que l'Élysée demandait à pouvoir relire et valider les propos du chef de l'État.
Et cela a immédiatement déclenché une large controverse sur les réseaux sociaux, les uns saluant cette décision du journal contre, je cite, un début de censure en Macronie, les autres justifiant la demande de l'Élysée par la désagréable habitude qu'auraient les journalistes de déformer les propos. Alors commençons par débroussailler un peu tout cela, Guillaume. Cette pratique de la relecture a-t-elle commencé avec Emmanuel Macron? Non, et loin s'en faut, les précédents chefs de l'État avaient la même exigence, et à vrai dire, les ministres également. Deuxième question, cette pratique est-elle circonscrite à la politique ? Non, il est courant que les grands patrons ou les vedettes fassent aussi cette demande. Alors s'agit-il d'une tempête dans un verre d'eau ou plutôt dans un verre d'encre ? Non plus. Ce n'est pas parce qu'une pratique est ancienne qu'elle est justifiée, ce n'est pas parce qu'elle est répandue qu'elle est légitime. Car derrière la demande de relecture se cache souvent celle de la réécriture. Certes, la réécriture vise parfois à rendre plus fluide le propos, à ôter des répétitions ou des imprécisions, mais nombre de journalistes de la presse écrite peuvent citer des exemples d'entretiens riches et denses passés à la moulinette des communicants est revenu vierge de toute aspérité. Dans ce cas, le communiqué de presse ferait gagner du temps à tout le monde.
Avez-vous un exemple concret de ces dérives ?
Alors nous sommes en 2016, quinquennat de François Hollande, Manuel Valls à Matignon et au ministère du Travail, Myriam El Khomri, celle-ci, accorde un entretien au journal Les Échos pour défendre la loi travail, qui suscite, vous le savez, beaucoup de contestations à l'époque. Les collaborateurs de Manuel Valls demandent à relire l'interview et il rajoute dans la bouche de Myriam El Khomri une phrase qu'elle n'a jamais prononcée, une phrase qui ouvre la voie au 49-3 pour faire passer en force la loi travail au Parlement. Voilà donc une ministre qui se voit imposer des déclarations qu'elle n'a pas tenues mais dont elle sera ensuite responsable devant les syndicats, devant les parlementaires et devant l'opinion publique. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, l'Élysée demande aussi à relire et à valider l'entretien. François Hollande trouve la formule ajoutée par Matignon trop abrupte. La présidente efface donc la menace du 49-3, mais pas de chance. Pendant ces atermoiements, l'heure tourne et le journal est déjà bouclé. La modification de l'Élysée arrive trop tard et la version qui paraît est celle de Manuel Valls contre l'avis de François Hollande et à rebours des propos de Myriam El Khomri. Bref, dans ces conditions, une interview politique ressemble à une bouillabaisse dans laquelle chacun ajoute son ingrédient. À la fin, on n'est plus très sûr de ce qu'on consomme. Voilà où peut mener la relecture.
Et nombre de journalistes étrangers s'étonnent d'ailleurs de cette habitude.
Oui, un grand journal britannique, le Guardian, après avoir interviewé François Hollande, avait d'ailleurs écrit ceci. Conformément à un usage français, les citations ont été validées avant publication. Le New York Times interdit la relecture, sauf pour les sources qui possèdent des données cruciales, comme les lanceurs d'alerte. On pourrait imaginer d'ailleurs étendre cette règle aux entretiens très techniques, par exemple avec des scientifiques, pour éviter les contresens. Mais comment imaginer qu'un président de la République, ancien ministre, avec des milliers d'interviews au compteur, ait besoin d'un scribe pour préciser sa pensée ? Si l'on prend du recul, la relecture revient à estimer qu'un professionnel de la parole n'est pas capable de maîtriser la sienne et que des professionnels du recueil de la parole ne sont pas fichus de la retranscrire sans l'altérer. Dans ce cas, on a raison de s'inquiéter d'une baisse générale du niveau. Ajoutons à cela un étonnement. Pourquoi seuls les titres de presse écrite sont victimes de ces exigences ? Imagine-t-on une entrevue télévisée avec Emmanuel Macron enregistrée dont l'Élysée voudrait faire elle-même le montage, rajouter des mots, en enlever d'autres ? Ce serait évidemment un scandale.
Autre exemple de cette vigilance à géométrie variable, Frédéric.
Nos responsables politiques répondent avec plaisir, vous l'avez remarqué, aux interviews, nouveau format sur internet, ces vidéos ultra courtes avec de la musique et un montage très séquencé qui ont fait la réputation de marques comme Brut ou Combini. Les communicants demandent-ils un droit de regard sur chaque coupe au montage ? Évidemment pas. Alors peut-être les optimistes y verront le signe qu'en France, l'écrit conserve une sacralité supérieure à l'écran. Quoi qu'il en soit, saluons la décision de nos confrères de La Voix du Nord et du Télégramme. Elle est symbolique, bien sûr, elle ne prétend pas occulter, corriger les failles du journalisme politique, comme le suivisme, la frénésie ou le manque de recul. Mais ce geste a le mérite de secouer des coutumes établies qui se perpétuent par la seule force de l'habitude. Ça s'est toujours passé comme ça, répondent les blasés. Et bien voilà un domaine où l'Élysée gagnerait à oser la fameuse disruption.
Merci Frédéric Seize.